Anatole France, le livre de mon ami, Les Humanités. Je vais vous dire ce que me rappelle tous les ans le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais. Car c'est le temps où les feuilles tombent, une à une, sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre. C'est l'ombre du moi que j'étais il y a 25 ans. Vraiment, il m'intéresse, ce petit. Quand il existait, je ne me souciais guère de lui. Mais maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien. Il valait mieux, en somme, que les autres moi que j'ai eus après avoir perdu celui-là. Il était bien étourdi, mais il n'était pas méchant, et je dois lui rendre cette justice qu'il ne m'a pas laissé un seul mauvais souvenir. Il y a 25 ans, à pareille époque, il traversait avant 8 heures ce beau jardin pour aller en classe. Il avait le cœur un peu serré. C'était la rentrée. Pourtant, il trottait, ses livres sur son dos et sa toupie dans sa poche. L'idée de revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur. Il avait tant de choses à dire et à entendre. Ne lui fallait-il pas savoir si la Boriette avait chassé pour de bon dans la forêt de l'Aigle? Ne lui fallait-il pas répondre qu'il avait, lui, monté à cheval dans les montagnes d'Auvergne? Quand on fait une pareille chose, ce n'est pas pour la tenir cachée. Et puis c'est si bon de retrouver des camarades. Combien il lui tardait de revoir Fontanet, son ami, qui se moquait si gentiment de lui. Fontanet, qui, pas plus gros qu'un rat et plus ingénieux qu'Ulysse, prenait partout la première place avec une grâce naturelle. Il se sentait tout léger à la pensée de revoir Fontanet. C'est ainsi qu'il traversait le Luxembourg dans l'air frais du matin. Tout ce qu'il voyait alors, je le vois aujourd'hui. C'est le même ciel et la même terre. Les choses ont leur âme d'autrefois, leur âme qui m'égaye et m'attriste et me trouble. Lui seul n'est plus. C'est pourquoi, à mesure que je vieillis, je m'intéresse de plus en plus à la rentrée des classes. Si j'avais été pensionnaire dans un lycée, le souvenir de mes études me serait cruel, et je le chasserais. Mais mes parents ne me mirent point à ce bagne. J'étais externe dans un vieux collège un peu monacal et caché. Je voyais chaque jour la rue et la maison et n'étais point retranchée comme les pensionnaires de la vie publique et de la vie privée. Aussi mes sentiments n'étaient point d'un esclave. Ils se développaient avec cette douceur et cette force que la liberté donne à tout ce qui croit en elle. Ils ne s'y mêlaient pas de haine. La curiosité y était bonne et c'est pour aimer que je voulais connaître. Tout ce que je voyais en chemin, dans la rue, les hommes, les bêtes, les choses, contribuaient, plus qu'on ne saurait croire, à me faire sentir la vie dans ce qu'elle a de simple et de fort. Rien ne vaut la rue pour faire comprendre à un enfant la machine sociale. Il faut qu'il ait vu au matin les laitières, les porteurs d'eau, les charbonniers. Il faut qu'il ait examiné les boutiques de l'épicier, du charcutier et du marchand de vin. Il faut qu'il ait vu passer les régiments, musique en tête. Il faut enfin qu'il ait humé l'air de la rue pour sentir que la loi du travail est divine et qu'il faut que chacun fasse sa tâche en ce monde. J'ai conservé de ses courses du matin et du soir, de la maison au collège et du collège à la maison, une curiosité affectueuse pour les métiers et les gens de métier. Je dois avouer pourtant que je n'avais pas pour tous une amitié égale. Les papetiers qui étalent à la devanture de leur boutique des images d'Épinal furent d'abord mes préférés. Que de fois, le nez collé contre la vitre, j'ai lu d'un bout à l'autre la légende de ces petits drames figurés. J'en connus beaucoup en peu de temps. Il y en avait de fantastiques qui faisaient travailler mon imagination et développer en moi cette faculté sans laquelle on ne trouve rien, même en matière d'expérience et dans le domaine des sciences exactes. Il y en avait qui, représentant les existences sous une forme naïve et saisissante, me firent regarder pour la première fois la chose la plus terrible, ou pour mieux dire, la seule chose terrible, la destinée. Enfin, je dois beaucoup aux images d'Épinal. Plus tard, à 14 ou 15 ans, je ne m'arrêtais plus guère aux étalages des épiciers dont les boîtes de fruits confits, pourtant, me semblèrent longtemps admirables. Je dédaignais les merciers et ne cherchais plus à deviner le sens de l'Y énigmatique qui brille en or sur leur enseigne. Je m'arrêtais à peine à déchiffrer les rébus naïfs figuré sur la grille historiée des vieux débits de vin, où l'on voit un coin ou une comète en fer forgé. Mon esprit, devenu plus délicat, ne s'intéressait plus qu'aux échoppes d'estampes, aux étalages de bric-à-brac et aux boîtes de bouquins. Ô vieux juif sordide de la rue du Cherche-Midi, naïf bouquiniste des quais, mes maîtres, que je vous dois de reconnaissance! Autant et mieux que les professeurs de l'université, vous avez fait mon éducation intellectuelle. Braves gens, vous avez étalé devant mes yeux ravis les formes mystérieuses de la vie passée et toutes sortes de monuments précieux de la pensée humaine. C'est en furetant dans vos boîtes, c'est en contemplant vos poudres étalages chargés des pauvres reliques de nos pères et de leurs belles pensées, que je me pénétrais insensiblement de la plus saine philosophie. Oui, mes amis, à pratiquer les bouquins rongés de verre, les ferrailles rouillées et les boiseries vermoulues que vous vendiez pour vivre, j'ai pris tout enfant un profond sentiment de l'écoulement des choses et du néant de tout. J'ai deviné que les êtres n'étaient que des images changeantes dans l'universelle illusion. Et j'ai été dès lors enclin à la tristesse, à la douceur et à la pitié. L'école en plein vent m'enseigna, comme vous voyez, de hautes sciences. L'école domestique me fut plus profitable encore. Les repas en famille, si doux quand les carafes sont claires, la nappe blanche et les visages tranquilles, les dîners de chaque jour avec sa causerie familière, donnent à l'enfant le goût et l'intelligence des choses de la maison, des choses humbles et saintes de la vie. S'il a le bonheur d'avoir, comme moi, des parents intelligents et bons, les propos de table qu'il entend lui donnent un sens juste et le goût d'aimer. Il mange chaque jour de ce pain béni que le père spirituel rompit et donna aux pèlerins dans l'auberge d'Emmaüs. Et il se dit comme eux, mon cœur est tout chaud au-dedans de moi. Les repas que les pensionnaires prennent au réfectoire n'ont point cette douceur et cette vertu. Oh, la bonne école que l'école de la maison! Pourtant, on entrerait bien mal dans ma pensée si l'on croyait que je méprise les études classiques. Je crois que, pour former un esprit, rien ne vaut l'étude des deux antiquités d'après les méthodes des vieux humanistes français. Ce mot d'humanité, qui veut dire élégance, s'applique bien à la culture classique. Le petit bonhomme dont je vous parlais tout à l'heure, avec une sympathie qu'on me pardonnera peut-être, en songeant qu'elle n'est point égoïste, et que c'est à une ombre qu'elle va, ce petit bonhomme qui traversait le Luxembourg en sautant comme un moineau, était, je vous prie de le croire, un assez bon humaniste. Il goûtait, en son âme enfantine, la force romaine et les grandes images de la poésie antique. Tout ce qu'il voyait et sentait dans sa bonne liberté d'externe qui flâne aux boutiques et dîne avec ses parents ne le rendait point insensible au beau langage qu'on enseigne au collège. Loin de là, il se montrait aussi attique et aussi cicéronien, peu s'en faut qu'on peut l'être dans une troupe de petits grimauds régis par d'honnêtes barbacoles. Il travaillait peu pour la gloire et ne brillait guère sur les palmarès, mais il travaillait beaucoup pour que cela l'amusât, comme disait La Fontaine. Ses versions étaient fort bien tournées et ses discours latins eussent mérité les louanges même de monsieur l'inspecteur, sans quelque solécisme qui les déparait généralement. Ne vous a-t-il pas déjà conté qu'à 12 ans, les récits de Tite-Livre lui arrachaient des larmes généreuses? Mais c'est en abordant la Grèce qu'il vit la beauté dans sa simplicité magnifique. Il y vint tard. Les fables d'Ésope lui avaient d'abord assombri l'âme. Un professeur bossu les lui expliquait, bossu de corps et d'âme. Voyez-vous Tersite conduisant les jeunes galates dans les bosquets des Muses? Le petit bonhomme ne concevait pas cela. On croira que son pédagogue bossu, se vouant spécialement à expliquer les fables d'Ésope, était admissible dans cet emploi. Non pas, c'était un faux bossu, un bossu géant, sans esprit et sans humanité, enclin au mal et le plus injuste des hommes. Il ne valait rien, même pour expliquer les pensées d'un bossu. D'ailleurs, ces méchantes petites fables sèches qui portent le nom d'Ésope nous sont parvenues limées par un moine byzantin qui avait un crâne étroit et stérile sous sa tonsure. Je ne savais pas, en 5e, leur origine, et je me souciais peu de la savoir. Mais je l'ai jugé exactement comme je les juge à présent. Après Ésope, on nous donna Homère. Je vis Thétis se lever comme une nuée blanche au-dessus de la mer. Je vis Nausicaa et ses compagnes, et le palmier de Délos, et le ciel, et la terre, et la mer, et le sourire en larmes d'Andromaque. Je compris, je sentis. Il me fut impossible pendant 6 mois de sortir de l'Odyssée. Ce fut pour moi la cause de punitions nombreuses. Mais que me faisaient les pinsommes? J'étais avec Ulysse sur la mer Violette. Je découvris ensuite les tragiques. Je ne compris pas grand-chose à Échille. Mais Sophocle, mais Euripide m'ouvrirent le monde enchanté des héros et des héroïnes et m'initièrent à la poésie du malheur. À chaque tragédie que je lisais, c'était des joies et des larmes nouvelles et des frissons nouveaux. Alceste et Antigone me donnèrent les plus nobles rêves qu'un enfant ait jamais eus. La tête enfoncée dans mon dictionnaire, sur mon pupitre barbouillé d'encre, je voyais des figures divines, des bras d'ivoire tombant sur des tuniques blanches, et j'entendais des voix plus belles que la plus belle musique qui se lamentait harmonieusement. Cela encore me causa de nouvelles punitions. Elles étaient justes, je m'occupais de choses étrangères à la classe. Hélas, l'habitude m'en resta. Dans quelques classes de la vie qu'on me mette pour le reste de mes jours, je crains bien, tout vieux, d'encourir encore le reproche que me faisait mon professeur de seconde. Monsieur Pierre Nausière, vous vous occupez de choses étrangères à la classe. Mais c'était surtout par les soirs d'hiver, au sortir du collège, que je m'enivrais dans les rues de cette lumière et de ce chant. Je lisais sous les réverbères et devant les vitrines éclairées des boutiques les vers que je me récitais ensuite à demi-voix en marchant. L'activité des soirs d'hiver régnait dans les rues étroites du faubourg que l'ombre enveloppait déjà. Il m'arriva bien souvent de heurter quelque patronné qui, sa manne sur la tête, menait son rêve comme je menais le mien, ou de sentir subitement, à la joue, la laine chaude d'un pauvre cheval qui tirait sa charrette. La réalité ne me gâtait point mon rêve, parce que j'aimais bien mes vieilles rues de faubourg dont les pierres m'avaient vu grandir. Un soir, je lus des vers d'Antigone à la lanterne d'un marchand de marrons, et je ne puis pas, après un quart de siècle, me rappeler ces vers « Ô tombeau, ô lit nuptial !» sans revoir l'Auvergnat soufflant dans un sac de papier et sans sentir à mon côté la chaleur de la poêle où rôtissaient les marrons. Et le souvenir de ce brave homme se mêle harmonieusement dans ma mémoire aux lamentations de la Vierge d'Ébène. Ainsi, j'appris beaucoup de vers. Ainsi, j'acquis des connaissances utiles et précieuses. Ainsi, je fis mes humanités. Ma manière était bonne pour moi. Elle ne voudrait rien pour un autre. Je me garderais bien de la recommander à personne. Au reste, je dois vous confesser que nourrie d'Homère et de Sophocle, je manquais de goût quand j'entrais en rhétorique. C'est mon professeur qui me le déclara, et je le crois volontiers. Le goût qu'on a, ou qu'on montre, à 17 ans, est rarement bon. Pour améliorer le mien, mon professeur de rhétorique me recommanda l'étude attentive des œuvres complètes de Casimir de Lavigne. Je ne suivis point sa recommandation. Sophocle m'avait fait prendre un certain pli que je ne pus défaire. Ce professeur de rhétorique ne me paraissait point, et ne me paraît point encore, un fin lettré. Mais il avait, avec un esprit chagrin, un caractère droit et une âme fière. S'il nous enseigna quelque hérésie littéraire, il nous montra du moins, par son exemple, ce que c'est qu'un honnête homme. Cette science a bien son prix. Monsieur Charron était respecté de tous ses élèves, car les enfants apprécient avec une parfaite justesse la valeur morale de leur maître. Ce que je pensais, il y a 25 ans, de l'injurieux Bossu et de l'honnête Charron, je le pense encore aujourd'hui. Mais le soir tombe sur les platanes du Luxembourg, et le petit fantôme que j'avais évoqué se perd dans l'ombre. Adieu, petit moi, que j'ai perdu, et que je regretterai à jamais, si je ne te retrouvais embellie dans mon fils. Fin du chapitre « Les humanités » du livre de mon ami d'Anatole France.